Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri et le yoga des cellules. L'auteur de ce livre, les auteurs d'origine sont Sri Aurobindo et Mère. Sélection de R. Y. Deshpande. Rédaction et traduction Lily et Marc Desplantes. Voilà. Alors, je vais vous lire l'introduction qui s'appelle « La transformation physique et les premiers signes ». L'invocation de Sri Aurobindo... Alors, je vous donne la continuité de la dernière fois. L'invocation de Sri Aurobindo à l'époque du feu, datée du 11 novembre 1935, montre sa promptitude à être à la mesure de l'exigence de son étreinte. Ce pouvoir de feu pouvait dorénavant entrer en son être et remplir son cœur de sa radiance extatique. La puissance et étincelante impétuosité d'un Gange de lumière solaire pouvait couler dans son être tout entier. Et c'est là où Sri Aurobindo a écrit un poème qui s'appelle « L'épouse du feu ». Alors, je vais vous lire ce poème. « Épouse du feu, étreins-moi fort maintenant. Épouse du feu, j'ai effeuillé la fleur de la rose terrestre. » J'ai tué le désir. Beauté de la lumière, encercle ma vie. Beauté de la lumière, j'ai sacrifié le désir, rompu avec la peine. Je veux porter ta joie. Image de l'extase frémit et enlace. Image de félicité, je veux ne voir que ta face merveilleuse, ne sentir que ton baiser. Voix de l'infini résonne dans mon cœur, appel de l'un, grave là ton éclat pour n'en jamais partir au soleil vivant. Et en octobre 1939, vint cette image voguant sur le vaste océan d'or. La lumière qui m'enveloppait encore en revenant vers la terre, apportant la connaissance immortelle dans la grotte native de l'homme. Existe-t-il un être qui, après qu'il eut vogué sur les mers célestes d'or rayonnant, ramena quelque chose à cette vie éphémère et douloureuse, aux grottes natives de l'homme, aux eaux denses de cette trouble existence? Pour le bouddhiste, la vie n'est que peine, souffrance et détresse, et d'abord en raison des désirs ignorant des hommes et de leurs mille besoins futiles. Pour lui, la seule voie possible hors de cette mortalité pavée de dukkha est de suivre l'octuple sentier, car d'un point de vue pragmatique, il n'existe aucun autre chemin par lequel tout peut être racheté. La grande barque peut voguer jusqu'aux ineffables rivages du vide, Shunya. Mais elle n'en ramène que le calme et son image iconique. C'est une solution, nul doute, pour échapper à la dureté des jours ou à la sinistre suffocation de la nuit. Cependant, elle n'est qu'à demi-valide et ne peut être entièrement satisfaisante. Le besoin de la vie reste inassouvi, bien qu'il faille aussi envisager cette possibilité que nul ne peut demeurer en paix dans le vide du soi. En contraste, pour l'Advaitine de la voie illusionniste, point n'est question de rapporter quoi que ce soit, puisque par émergence de la connaissance, le monde illusoire lui-même disparaît. Le monde n'étant après tout qu'un produit de l'ignorance du soi. Pour le Vaishnava, alors Vaishnava, c'est un adorateur de Vishnu. Dans son extase, cette création tout entière n'est autre que Dieu à son jeu incessant. Lila, il est hors de question de s'en inquiéter. Pour le Shakta, adorateur de la Shakti, ou force cosmique du divin, tout est la volonté et l'œuvre de la Shakti suprême elle-même. Le but de sa quête est une vie identifiée à sa volonté et à son action. Alors je me permets de répéter cette ligne qui est très importante. Pour le Shakta, tout est la volonté et l'œuvre de la Shakti suprême elle-même. Le but de sa quête est une vie identifiée à sa volonté et à son action, lui-même devenant la divinité, vénérant la divinité de son adoration. Les anciens voyants des Upanishads, quant à eux, aspiraient à franchir les portes du soleil, Suryasya Dvara, et atteindre l'immortalité dans sa triple splendeur. Ou encore, ils cherchaient à se fondre en l'être suprême. Là où la perception du jeu, le nom et la forme est entièrement dissoute, comme disparaît une rivière dans l'immensité de l'océan. Même pour ceux qui sont capables de se hisser jusqu'au monde de l'idée pure, duquel nous pourrions être les brillantes projections ici-bas, il n'existe aucun mécanisme par lequel les vastes et chaudes réalités de gloire et de vérité immaculée peuvent être apportées sur terre. Les rishis de l'époque védique invoquaient l'immortel dans l'immortel, demandaient une descente et des troupeaux, vaches et chevaux. En sanskrit, la vache, c'est go, et ashwa, le cheval, signifie respectivement lumière et force spirituelle dans le secret des Védas. Et l'abondance spirituelle, et les obtinrent par leur tapasya. Pour accomplir ce sacrifice, ils aspiraient à une vie d'une centaine d'automnes, Jiven Sarada Satam. Et nous pouvons même affirmer qu'ils aspiraient à vivre dans sa joyeuse culmination, sa riche félicité, Parajatvata Sobhagam, comme une juste rétribution. Ô âme, pour te réjouir, tu es rendu au silence infini du moi. Tu as plongé dans un abîme divin de joie. Mais où as-tu jeté ta mission et ton pouvoir? Sur quelle rive abandonnée de la route éternelle? Quelqu'un était en toi, qui est le moi et le monde, Qu'as-tu fait pour son dessein parmi les astres? La fuite n'apporte point la victoire ou la couronne. Tu es venu de l'inconnu pour faire, mais rien n'est achevé et le monde continue sa ronde, car seule la moitié de l'œuvre cosmique de Dieu est accompli. Seul s'est approprié le nom perpétuel. C'est extrait de Savitri. Dans toute l'histoire des victoires et des accomplissements spirituels, ce qui a été réalisé n'est qu'une moitié de l'œuvre cosmique de Dieu. Sri Aurobindo écrivait ces lignes vers 1942. Il vit que les grottes natives de l'homme étaient demeurées dans la nuit. Au mieux, ce qui pouvait être parfois projeté sur les murs n'était qu'une ombre brillante de cet au-delà lointain. Mais quand le maître yogi revint, apportant avec lui la lumière de cet au-delà jusque dans le physique même, alors, pour la première fois, les caves virent la possibilité de devenir la demeure même de la lumière. Un nouveau commencement. Pour la première fois dans ces cavernes, Sri Aurobindo apportait la connaissance immortelle, seul capable d'annoncer la divinité de sa splendeur intouchée par la même épaisse obscurité matérielle. L'immortel dans le mortel, dit le Veda, a transformé cette mortalité en sa propre nature. Pas un au-delà lointain, mais ici-bas, dans la nuit profonde de la terre. 25 ans d'engagement yogique dans sa grotte de Tapasya avaient apporté une féconde félicité. Nous pouvons donc affirmer que Sri Aurobindo, le yoga de la transformation physique à proprement parler commença en 1935, le divin incarné y travaillant sans cesse, jour et nuit, jour après jour. La mère, dans un entretien du 10 octobre 1956, parle de l'élite de l'humanité et raconte la descente du supramental en Sri Aurobindo, une descente qui avait commencé depuis fort longtemps. Ce que Sri Aurobindo promettait et ce qui évidemment nous intéresse, nous qui sommes ici maintenant, c'est que le temps est venu où quelques êtres d'élite dans l'humanité qui remplissent les conditions de spiritualisation nécessaires, seront capables de transformer leur corps à l'aide de la force, de la conscience et de la lumière supramentale, pour ne plus être des hommes animaux, mais devenir des surhommes. Cette promesse, Sri Aurobindo l'a faite et l'a fondée sur la connaissance qu'il avait que la force supramentale était sur le point de se manifester sur la terre. En fait, elle était descendue en lui depuis fort longtemps. Il la connaissait, il savait quels étaient ses effets. Quand la question précise fut posée à la mère au sujet que depuis fort longtemps sa réponse fut immédiate, sans hésitation, ne laissant planer aucun doute. Même en 1938, je voyais le supramental descendre en Sri Aurobindo. Ce qu'il ne pouvait pas faire à cette époque était fixé ici. Le fixer ici aurait impliqué une orientation totalement différente de la tapasya. Celle-ci aurait progressé rapidement, libre des contingences paresseuses de la nature terrestre. En vérité, cela aurait signifié que ni la fracture à la cuisse dans la jambe droite, survenue au petit matin du 24 novembre 1938, ni le départ de Sri Aurobindo le 5 décembre 1950 ne serait arrivé. Mais cela est arrivé, ce qui signifie simplement que la question d'une transformation décisive du corps devait être encore mesurée, examinée en termes de détails d'action. Plus spécifiquement, le supramental qui descendait devait encore être stabilisé en lui, dans son physique. Le supramental était établi en Sri Aurobindo, mais il n'avait pas transformé son corps. La force supramentale était présente dans le physique subtil. Concernant la descente du supramental même, Mère raconte. Le supramental était descendu depuis longtemps, très longtemps, dans le mental et même dans le vital. Il travaillait dans le physique aussi par ses intermédiaires. La question concernait l'action directe du supramental dans le physique. Sri Aurobindo disait que cela serait possible seulement si le mental physique reçoit la lumière supramentale. Le mental physique était l'instrument pour l'action directe sur le plan matériel. Ce mental physique, recevant la lumière supramentale, Sri Aurobindo l'appelait le mental de lumière. Alors aujourd'hui, je termine cette lecture de la transformation physique de Savitri et le yoga des cellules, sélectionné par Detch Pandé, mais l'origine de ce livre sont Sri Aurobindo et Douce Mère, lu par Ganga Lakshmi à Auroville Radio. Merci à tous. Merci Stéphano.